Voilà, ce matin, nous allons poursuivre dans la lecture du livre d'Agé, au chapitre 1. Dans l'Ancien Testament. Et donc, la semaine dernière, on s'était arrêté sur le message que Dieu avait donné à Agé pour le peuple, pour aider le peuple à prendre conscience que le temps était venu de reconstruire le temple. On ne va pas revenir sur ce message. Une des paroles que Dieu avait dites, c'est « J'en aurai de la joie et je serai honoré. » On a vu que lorsqu'on se met au service du Seigneur, ce n'est pas simplement nous qui en avons de la joie, mais aussi lui. Et le but, c'est que le service qu'on lui rend puisse contribuer à sa gloire. « J'en serai honoré. » Ce matin, on va lire les versets 12 à 15 pour voir quel effet a eu le message qu'Agé a proclamé. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu leur avait confié, lui avait confié. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shéaltiel, et l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jetsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. On voit donc Agé qui a proclamé, qui a appelé le peuple à se lever, et la première conséquence, la conséquence de ce message, ce fut le réveil du peuple. Pas simplement le réveil des responsables, mais le réveil de tout le peuple, il est dit ici. Tout le peuple s'est levé et s'est mis à l'œuvre pour reconstruire le temple, la maison de l'Éternel. Ce matin, on va s'arrêter sur ce qu'est un réveil. Un réveil. Comment le réveil se produit-il? Quels en sont les instruments, les éléments? Je crois que s'il y a un livre qui est adapté pour parler du réveil, c'est le livre d'Agé, parce que c'est vraiment un livre qui nous parle de ce qui s'est produit pour que un peuple se lève et se mette à l'œuvre pour entrer de nouveau dans le service de Dieu. Les deux premiers éléments du réveil, on les voit ici, c'est d'abord une prédication ciblée de la parole de Dieu. Une prédication adaptée aux circonstances dans lesquelles se trouve le peuple. Le réveil toujours commence par la prédication de la parole de Dieu et l'écoute de la parole de Dieu. Ce sont deux éléments qui sont indissolubles. Mais avant l'écoute de la parole de Dieu, Dieu a suscité un ouvrier, un instrument, c'est Agé, pour la proclamer. Les réveils sont toujours l'œuvre de Dieu, se produisent à des moments particuliers du peuple, de l'histoire du peuple de Dieu, souvent quand le peuple est au plus bas, quand il est dans le sommeil, la léthargie, comme c'est ici. Dieu suscite alors un ouvrier avec un message approprié, ciblé, qui parle au cœur du peuple, à sa conscience. Et à travers cette parole, Dieu suscite aussi dans le cœur le désir de se repentir et de revenir à la tâche à laquelle il l'appelle. Les réveils que Dieu produit dans l'histoire, que Dieu a produit dans l'histoire, ne sont pas le fruit d'organisation humaine. C'est le Saint-Esprit qui agit et qui suscite les ouvriers, les hommes au travers de qui sa parole est proclamée et qui mettent en œuvre finalement le peuple de Dieu. Le livre d'Agé est particulièrement intéressant à ce sujet parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le livre d'Agé, il est contenu dans 4 mois seulement. 4 mois. On voit ici la deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois. C'est là que commence le ministère d'Agé. Et quand vous allez à la fin du livre, chapitre 2, verset 20, eh bien, on est le 24e jour du, attendez, je reprends, du 9e mois, verset 10. Entre le 6e et le 10e mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Le ministère d'Agé, ce n'est pas grand-chose. Mais ce livre est dans la parole pour nous montrer comment Dieu produit un réveil. L'œuvre de Dieu est une œuvre souveraine. Il choisit les instruments qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas forcément par des hommes importants que le réveil se produit. On ne sait pas qui est âgé. On ne connaît pas grand-chose de sa vie. Mais l'Esprit de Dieu l'a saisi au moment où le peuple avait besoin d'entendre ce message. Et pendant 4 mois, il a exercé son ministère. Je vous encourage aussi, quand vous lisez la Bible, à regarder les outils que Dieu utilise. Alors, il y a des hommes que Dieu a utilisés toute leur vie. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Leur ministère s'est prolongé sur des décennies. Mais il arrive que Dieu utilise un homme comme ça. 4 mois. Un homme qui n'est pas forcément un grand homme, un homme ordinaire, on pourrait dire. Lorsque Dieu a voulu utiliser un homme pour réveiller Paul, en quelque sorte, en tout cas lui imposer les mains, il a choisi Ananias. Ananias, on le voit une fois dans la Bible, et pourtant il a été l'outil de Dieu pour transmettre à Paul la vocation que Dieu avait pour lui. L'œuvre de Dieu, c'est vraiment la souveraineté de Dieu qui utilise, qui suscite les hommes qu'il désire, qu'il choisit pour mettre en route le peuple de Dieu, le service de Dieu. Le but du réveil, c'est pas simplement de nous donner de nouveau une relation avec Dieu renouvelée, mais le but du réveil, c'est de nous conduire à entrer de nouveau dans la mission que Dieu a pour nous. Le réveil se produit lorsque Dieu, dans une génération, secoue le peuple de Dieu, lui parle, l'amène à comprendre sa volonté et le met en route, le met en œuvre pour qu'il fasse ce que Dieu attend de lui dans sa génération. Il n'y a pas de réveil sans obéissance, sans engagement, sans renouvellement, sans prise de conscience de la volonté de Dieu pour nous. Alors, il y a 2 éléments premiers, je l'ai dit, qui sont à l'origine du réveil. C'est d'abord le fait que Dieu, à un moment, suscite un ouvrier qu'il envoie avec un message ciblé, adapté. Et le 2e élément, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, à propos de la parole de Dieu, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a dans la Bible 2 mots qui qualifient la parole de Dieu, qui la désignent. Le premier mot, c'est le logos. Vous avez déjà entendu ce mot ou pas? Le logos, c'est la parole de Dieu. Dans toute sa sagesse, dans sa plénitude, dans son entier. Jésus est appelé le logos, la parole faite chair, hein. Mais il y a un 2e mot, et c'est ce mot-là qui est finalement la clé du réveil, c'est le schéma. Le schéma, c'est la parole de Dieu qui pénètre dans le cœur, la parole personnelle, entendue, reçue. Chacun d'entre nous, si nous sommes devenus chrétiens, c'est que la parole de Dieu, qui était le logos, le message, est devenu le schéma, la parole qui entre, vous comprenez, qui pénètre dans le cœur. L'apôtre Pierre le dit dans son épître, « Nous avons été régénérés par la semence de Dieu, la parole qui porte la vie de Dieu et qui a fécondé notre âme. » La nouvelle naissance, c'est comme la naissance naturelle, physique. Il faut une semence qui féconde un ovule et la parole de Dieu qui pénètre en nous, qui féconde notre vie, apporte la vie. Le réveil, c'est quand Dieu fait pénétrer sa parole dans le cœur des hommes. Qu'elle devient partie intégrante de leur être, qu'elle transforme leur vie de l'intérieur, qu'elle diffuse la vie de Dieu dans leur âme. Et vous le savez, beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu, peuvent l'entendre, mais tant qu'elle n'est pas entrée en eux, qu'elle n'a pas pénétré, elle ne peut pas porter le fruit de la vie de Dieu en eux. Donc, le réveil se produit vraiment lorsque la parole de Dieu, la proclamation, la prédication entre dans le cœur du peuple et produit du fruit. Comment cette parole pénètre-t-elle? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu. Il y a un premier verbe qui est mentionné, qui est suivi d'un deuxième. Il y a une première action qui vient du cœur du peuple et une deuxième qui vient de Dieu. Il est dit au verset 12 que le peuple écoute la voix de l'Éternel. Ça, c'est le moyen par lequel la parole pénètre, un cœur qui écoute. Une écoute sérieuse et attentive de la parole de Dieu. Quand je suis devant Dieu pour recevoir ce qu'il a à me dire. Et la conséquence, le verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur et de tout le peuple. Nous ne sommes pas passifs dans le réveil. Le réveil se produit quand le cœur du peuple se met à l'écoute de Dieu et de sa parole. Et je crois que c'est tellement important à tous les niveaux, quand on est devant la parole de Dieu seul, mais quand on écoute aussi la prédication, les enseignements, de prier vraiment. « Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute, que je puisse recevoir sans préjugés, sans résistance, ce que tu veux me dire. » Ézéchiel, je vais lire un verset dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 32. Ézéchiel se plaint. Ses frères qui nous ont précédés, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ce n'était pas facile pour eux. Pourquoi? Parce que pendant des décennies, Jérémie se plaint à un moment, il dit « Pendant 23 ans, tous les matins, je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. » Ézéchiel dit la même chose, verset 32, « Dieu lui dit, tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. » Ézéchiel 33, 32. Il y a vraiment ce danger d'écouter la parole de Dieu comme on écouterait une chanson. J'aime bien la mélodie, mais les paroles ne pénètrent pas dans le cœur. Dans Romains 10, verset 16, Paul dit « Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Pourquoi ?» Eh bien, Ésaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» À part si le cœur n'est pas ouvert, la foi ne peut pas naître. Et l'obéissance ne peut pas être la suite. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle se produit quand le cœur est tout ouvert à Dieu, pour dire « J'écoute Seigneur, je suis devant toi, je veux entendre ce que tu veux me dire. » Ésaïe dit, nous parle de l'attitude qui est la sienne. Pourquoi est-ce qu'il est prophète, Ésaïe? Ben, il est aussi prophète parce qu'il est dans une attitude qui est la meilleure pour que Dieu puisse lui transmettre sa parole. Dans Ésaïe 50, verset 4, il dit « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Voilà comment on doit écouter, à la manière de disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui est assis au pied d'un maître. C'est un apprenti. Il est là pour apprendre. Il est là pour se laisser former, pour apprendre à imiter le maître. Le disciple, il a la position qui est celle de Marie, vous connaissez, quand Jésus est passé à sa maison. Au lieu de s'occuper d'autre chose, elle s'est mise assise pour recevoir. C'était si rare que Jésus passe. Il ne fallait pas passer à côté de ce moment. Dans quelle disposition de cœur est-ce que je suis face à la parole? C'est ça qui détermine aussi l'impact qu'elle aura dans ma vie. Ai-je la disposition d'un cœur de disciple assis au pied du maître? Qui cherche pas à trier, à interpréter, mais qui cherche à recevoir d'abord ce que le maître veut me dire. Alors que Jésus était sur terre, il y a une femme dans la foule qui lui a dit « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Est-ce que vous vous rappelez de la réponse que Jésus a faite à cette femme? Oui, non? Il y en a qui se creusent, hein, je vois.
Hein?
Oui, il a dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'était assez sévère, hein, pour Marie. Quel privilège, Marie, tu as eu d'être la mère de Jésus, de l'avoir porté. Jésus dit « Il y a un privilège plus grand, un avantage plus grand que celui de Marie. » Il est dans le cœur de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Les deux premiers éléments, donc, du réveil, c'est deux ou trois. D'abord, un ouvrier que Dieu qualifie, qu'il envoie. Un homme providentiel, on peut dire, porteur d'un message ciblé. Et ensuite, l'écoute de la parole de Dieu, un message. Et le troisième, ce n'est pas simplement une écoute individuelle, mais on le voit ici, c'est une écoute du peuple de Dieu dans son entier. Tout le peuple, à commencer par ceux qui étaient les responsables, s'est mis à l'écoute de la parole de Dieu. Zorobabel d'abord, Josué, le grand prêtre et tout le peuple. Le réveil parmi le peuple de Dieu, c'est quand Dieu se saisit de tout le peuple pour qu'il puisse avoir un seul cœur pour le servir. C'est quand, ce qu'on a dit tout à l'heure, les intérêts du royaume de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu, prend le pas sur les intérêts privés et personnels. Vous vous rappelez que avant que Agé n'apporte son message, le peuple était préoccupé par le type de lambris qu'il devait mettre dans sa maison, alors que le temple était en ruine. Ici, les priorités sont changées, bouleversées. Le peuple met de côté ses questions secondaires et il est là de nouveau pour servir, pour travailler à la construction du temple. Parfois, on pense que le réveil, c'est Dieu qui fait des nouvelles choses, qui produit de nouveaux miracles. Il peut le faire, bien sûr. Mais le réveil, c'est le retour à notre vocation, surtout. C'est le fait qu'on retrouve les bonnes priorités, que les choses sont de nouveau alignées dans le bon ordre. Parce que Dieu nous a de nouveau touchés et nous voyons clair. Par rapport à la situation précédente. Le réveil, ce n'est pas un extra, une nouvelle aventure inconnue, c'est le retour à ce qui aurait dû être vécu et qui ne l'a plus été. Hein? On est allé au Brésil dernièrement. Bon, ça, c'est un extra. Mais ce n'est pas la vie quotidienne. Et le réveil, c'est pareil. C'est vraiment le fait que dans la vie quotidienne, Dieu retrouve sa place, son œuvre, son service à la bonne place. L'apôtre Paul le dit dans Romains 10, verset 8. Il dit que la vie avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher en grimpant au ciel ou en allant dans les abîmes. Il dit que c'est quelque chose qui est là tout près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est quand le cœur retrouve sa place devant Dieu, en quelque sorte, que Dieu retrouve sa place aussi dans le cœur et que la bouche, elle dit oui à ce que Dieu attend. La vie chrétienne, ça se vit vraiment à l'intérieur. Il ne faut pas attendre quelque chose d'extérieur. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Il est intéressant de voir que Dieu a commencé à réveiller d'abord les responsables. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'on est responsable de quelque chose qu'on a des fonctions de responsabilité parmi le peuple de Dieu qu'on est réveillé. La fonction ne fait pas forcément la qualité ou l'homme. Il faut que chacun d'entre nous, nous soyons personnellement aussi réveillés dans nos relations, dans notre relation avec Dieu. Si le peuple de Dieu ne suit, enfin, pas toujours, mais en tout cas, si Dieu a voulu qu'il y ait des responsables, c'est parce qu'ils devaient être les premiers, finalement, les premiers à être les modèles pour que le peuple de Dieu puisse être entraîné avec eux dans le service. Et je crois qu'il n'y a rien de pire, toute la Bible le montre, qu'un peuple qui a de mauvais responsables, qui ne vit plus pour Dieu. L'exil d'Israël et toute l'histoire d'Israël est la suite aussi de la décadence, de la démission des responsables qui étaient à sa tête, aussi bien les rois que les prêtres et même les prophètes, qui ne parlaient plus comme Dieu le voulait et ne vivaient plus comme Dieu le voulait. Donc le réveil, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur du peuple, mais aussi des responsables. Et je crois qu'il faut prier vraiment, toujours prier, pour nous, parce que nous ne sommes pas plus que vous, hein. Tous ceux qui ont des responsabilités, que ce soit dans l'enseignement ou autre chose, on a tous besoin aussi d'être sensibles à la voix de Dieu, d'écouter sa parole, et de pouvoir être aussi pas un obstacle à cette œuvre. Un autre élément du réveil, on le voit ici. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est de nouveau présente parmi le peuple. Si la crainte de Dieu n'est pas présente dans un réveil, le réveil ne tient pas. La crainte de Dieu, c'est la notion de la grandeur de Dieu, du respect que l'on doit à sa personne. Ce n'est pas une crainte paralysante, mais c'est une crainte qui nous pousse, qui nous conduit à prendre conscience de nos responsabilités devant lui. La crainte de Dieu se traduit par une volonté d'obéissance et de service dans la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit l'évangile qui se répand, qui se multiplie, les églises qui naissent, les réveils qui se succèdent. Et dans Actes 9, 31, il est dit « L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. » Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le réveil de la première église, les églises qui naissent, le travail de Paul, la bénédiction qui est sur les apôtres, elle s'accompagne de la crainte de Dieu en même temps. On ressent ce saint respect, cette sainte adoration envers la personne de Dieu. Et quand on lit l'histoire de l'Église primitive, il y a un épisode qui est particulièrement douloureux, c'est Acte 5, vous vous rappelez, quand Ananias et Saphira mentent aux apôtres. Les apôtres, l'Église met tout en commun. Les gens apportent leurs biens, les déposent aux pieds des apôtres pour que toute l'Église puisse être bénie à travers ses dons. Mais il y a un couple qui vient et qui fait semblant d'apporter quelque chose à Dieu, alors qu'ils ont retenu une partie de la vente du champ qu'ils avaient. En fait, ce qui manquait dans le cœur d'Ananias et Saphira, c'était la crainte de Dieu. Tout simplement. Ils ont cru qu'ils pouvaient simuler la consécration que les autres avaient. Et la conséquence a été pour eux d'être jugés sévèrement, puisqu'ils sont morts. Et il est dit, après, une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. S'il y avait quelque chose que Dieu ne voulait pas, qui disparaissent dans l'Église, c'était la crainte. Être conscient que nous sommes devant un grand Dieu, qui a des droits sur nous. Nous ne pouvons pas jouer avec lui, faire semblant. On doit être honnête dans sa relation avec Dieu. Et dans le réveil, finalement, nous sommes amenés à être honnêtes avec Dieu, à vivre vraiment devant lui, dans la transparence. Une autre marque du réveil qu'on lit ici, c'est le verset 13. Et ça, on le voit partout. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous. » Le réveil, c'est quand Dieu agit, est présent et se manifeste au travers de son peuple, de façon puissante et évidente. À chaque réveil, il y a ce renouveau, il y a cette marque, cette touche de la présence de Dieu parmi son peuple. On le voit à l'œuvre, il fait des choses extraordinaires, nouvelles parfois. Je suis moi-même avec vous. Et tous ceux qui ont vécu les réveils le disent, il y avait cette présence de Dieu qui était flagrante, puissante. Dans le livre des Actes, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il n'est pas toujours facile de découper ce livre, d'en connaître la structure, mais il y a un refrain qui revient constamment, méthodiquement, dans le livre des Actes. C'est juste des versets comme ça qui ponctuent les histoires qui nous sont relatées dans le livre. Je vais vous les lire. « La parole de Dieu se propageait de plus en plus. » Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Acte 6, verset 7. C'est un premier bilan de ce qui s'est passé dans les premiers chapitres. La parole de Dieu se propageait, la puissance de Dieu, Dieu agissait. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. C'est le verset que j'ai lu tout à l'heure. Acte 12, 24. On voit ces versets finalement concluent chaque fois des avancées de l'Évangile. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Acte 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi, augmentaient en nombre chaque jour. Acte 19, verset 20. C'est ainsi que la parole de Dieu se propageait et gagnait en puissance. Et jusqu'au verset final du livre des Actes, Paul prêchait le royaume de Dieu, enseignait ce qui concerne le Seigneur avec une pleine assurance et sans obstacle. Il y a vraiment la présence de Dieu et la puissance de Dieu qui agit avec son peuple. Le livre des Actes ne nous rapporte pas seulement les actes des apôtres, mais surtout les actes du Saint-Esprit pour faire progresser l'Évangile. Et l'apôtre Paul nous le rappelle quand il parle de son ministère. Il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Le réveil donc se produit lorsque le peuple de Dieu est réveillé par sa parole dans son cœur, lorsqu'il se lève, lorsqu'il marche dans la crainte de Dieu et que Dieu travaille en collaboration avec lui. C'est vraiment l'objectif. Bien sûr, il y a des moments précis où Dieu le fait, mais on peut dire que le livre des Actes, c'est le modèle que Dieu voudrait pour chaque Église. Cette communion, cette collaboration entre Dieu, cette proximité qui fait que l'Évangile progresse, que les vies s'affermissent et grandissent. Et puis, le dernier point qu'on voit dans le texte, et qui est aussi une marque du réveil, c'est que le réveil conduit à des résolutions qui sont suivies d'effets. Vous l'aurez remarqué, hein, le peuple, l'Éternel réveille le peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Il y a un verset qui m'est revenu cette semaine, justement, quand je pensais à cela. C'est dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, il y a une femme qui est juge. Parmi tous les juges masculins, c'est Déborah. Pourquoi ? Parce que tous les hommes étaient plutôt des omelettes, on peut dire, ou des femmelettes, je ne sais pas. En tout cas, personne n'osait se lever pour se battre contre les ennemis. Et donc, Dieu a suscité Déborah. Déborah lançait un appel à toutes les tribus pour se lever et se battre contre les armées, l'armée du roi Jabin, qui voulait écraser Israël. Et dans le chapitre 5, alors qu'ils ont remporté la victoire, Déborah fait un peu le bilan de chaque tribu, de ce qu'elle a fait. Et à la tribu de Ruben, Déborah dit, « Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. » Déborah fait un peu le procès de la tribu de Ruben et leur dit, « En fait, vous avez beaucoup discuté, délibéré, mais vous ne vous êtes jamais levé. Vous avez laissé les autres aller sur le front. Grandes ont été les délibérations, mais tu es resté au milieu de tes étables à écouter le bêlement des troupeaux. » Le réveil conduit toujours à une prise de position et un engagement. C'est pas simplement « c'est magnifique et ça n'a pas de suite », mais ça se traduit dans la vie par une collaboration de tout le peuple pour l'œuvre de Dieu. Alors, quels sont les éléments d'un réveil ? Je vais simplement les résumer. D'abord, rappeler que c'est Dieu qui a l'initiative. Il suscite à la fois les hommes par lesquels il appelle son peuple à se lever. Il leur apporte le message qui est adapté, ciblé, inspiré, qui permet au peuple de comprendre quel est l'appel de Dieu pour lui. La deuxième chose, c'est que le réveil se passe quand le peuple est à l'écoute de Dieu, écoute attentive, sérieuse, comme un disciple au pied de son maître. Le réveil, c'est Dieu qui se saisit de tout le peuple pour le mettre en route, pour qu'il se lève, pas simplement les responsables, mais tout le peuple est conscient de la mission, de l'appel de Dieu et de l'engagement auquel il l'appelle. Le réveil, c'est une collaboration entre le peuple de Dieu à un moment donné et Dieu pour faire les œuvres que Dieu veut faire à travers lui. La présence de Dieu, agissante, puissante, efficace, est la marque du réveil. Et puis le réveil, c'est une vie marquée non seulement par des résolutions, mais par un engagement pratique et concret. Alors je crois qu'on a tous besoin d'être dans cette dynamique. Et on peut, et je crois que la première condition à cela, eh bien, c'est qu'on se mette au pied du Seigneur et qu'on écoute sa parole. C'est là que commencent les choses, qu'on écoute comme écoutent des disciples, dans le but d'être transformé et d'être prêt à mettre de côté tout ce qui pourrait nous retenir, nous empêcher d'être là pour lui. Voilà, on va prier ensemble.